Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamadou Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur le projet de nouvelle constitution du Mali, proposé par les autorités de la transition et soutenu par le président, le colonel Assimi Goïta. Le projet a été approuvé avec 97% des voix. À suivre, le reportage de notre correspondant sur le contexte, le déroulement du scrutin et les réactions sur place. Notre invité analysera les enjeux et les perspectives de ce référendum. Nous vous amènerons ensuite au Bénin pour parler du lancement de la phase sportive et des visites médicales pour le recrutement de 5000 personnes dans l'armée de ce pays confrontée à la menace djihadiste. Le fait marquant de la semaine, c'est le remaniement partiel du gouvernement au Burkina Faso avec le départ de 4 ministres, dont ceux chargés de la sécurité et de la justice. Nous retrouverons l'un de nos alliés sur place. À suivre enfin le retour progressif à la normale dans la commune de Dassa, située à 150 km de Ouagadougou au Burkina Faso. De nombreuses populations qui avaient fui les violences djihadistes commencent à rentrer chez elles. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette émission est en live sur notre page Facebook, la page Facebook de VOA. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution, un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020. Le taux de participation s'élève à 39,4% selon l'autorité électorale qui a proclamé ses résultats provisoires lors d'une cérémonie au Centre international des conférences de Bamako. Un scrutin émaillé d'incidents et d'irrégularités selon des observateurs et opposants à la réforme qui projette de saisir la Cour constitutionnelle au fin de l'invalider. Suivons ce reportage réalisé par notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
C'est en présence de l'ensemble des commissaires de l'autorité indépendante de gestion des élections, du gouverneur de Bamako et en direct à la télévision nationale que les résultats provisoires du référendum ont été donnés. Des résultats largement en faveur du oui.
3 208 230. Pourcentage 97,00 et le non 99 181, pourcentage 3,00. Total 3 307 411 pour un pourcentage de 100%.
Créé pour faire barrage à la tenue du référendum, le Front uni contre le référendum rejette ces résultats qui, selon lui, ne reflètent pas la réalité du terrain.
Nous sommes stupéfaits de voir que ce taux a pris une vitesse exponentielle, car ce qui a été annoncé au préalable par les ONG qui ont participé aux élections sur toutes les entités du territoire national était aux environs de 25-27%. Aujourd'hui, si elle seule a fait le dépouillement et se prononce sur un taux pareil, et je vous assure que c'est de la mascarade électorale.
Cette constitution, qui est en passe de faire basculer le Mali dans la 4e République, devrait apporter un certain nombre de changements dans la gestion et la gouvernance du pays.
Désormais, le président de la République ne peut plus dissoudre le Parlement. Par contre, le Parlement, qui comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ces deux chambres peuvent faire tomber le président. Si tu es élu sur la liste d'un parti politique, tu vas à l'Assemblée, tu changes de parti, tu perds ta qualité de député. Donc c'est une bonne leçon quand même. Donc là, ce qu'on appelle la transhumance politique. Ce document, ce projet de constitution va essayer d'y mettre fin.
Malgré ces changements significatifs, le Front uni contre le référendum entend saisir la Cour constitutionnelle pour invalider les résultats.
Écoutez, nous allons déjà faire des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Des passages, vous savez que toute la République n'a pas voté également, Kidal n'a pas voté, bien d'autres. C'est un référendum, ça couvre toute la République. S'il y a des régions entières qui n'ont pas voté, je pense que la Cour doit apprécier et cette fois-ci, elle doit bien apprécier.
Il revient désormais à la Cour constitutionnelle, après vérification et au besoin des rectifications, de donner les résultats définitifs de ce référendum. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Merci Mohamed Danyoko pour ce reportage. Mohamed Danyoko qui est avec nous en ligne depuis Bamako. Salut Mohamed.
Salut Onfa Mohamedou.
Très bien. On vient de le voir dans le reportage, le référendum est loin d'avoir fait l'unanimité vu le taux de participation de 39,4%, même si plus de 97% des votants ont fait le choix du oui. Pourquoi ce référendum fait-il autant débat alors qu'il est censé être une étape vers la fin de la transition?
Écoutez, Mamadou Mfa, ce référendum fait débat parce que tout d'abord, il y a eu un front uni contre le référendum qui a été mis en place pour dire non à ce référendum. Et ce front-là est composé d'acteurs de la société civile, de partis politiques et d'autres acteurs. Pour ce front, notamment, la Constitution ne peut pas être revue et ces arguments sont tirés de la Constitution de 92, qui est d'ailleurs toujours en vigueur, en attendant les résultats définitifs, qui dit qu'il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, de référendum ou même d'élection quand une partie du pays est hors de contrôle des autorités. C'est cet argument-là que ce front a mis en avant pour dire non à ce référendum. Et autre chose, il y a eu cette histoire de laïcité qui n'a pas été en tout cas compris ou accepté par une frange importante de la population, notamment des religieux, qui ont pensé ou même appelé à des mobilisations à Bamako pour dire non à la réforme parce que la laïcité qui s'y trouve ne leur conviendrait pas. Donc voici autant de choses qui ont fait que aujourd'hui le parti victorieux en tout cas de ce référendum, c'est le parti de l'abstention aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a eu 3% pour le non, 97%, mais il faut noter que sur 8 400 000 électeurs, il y a eu moins de 4 millions d'électeurs. Donc voici un peu en quelque sorte tout ce qui en tout cas entoure en tout cas ce résultat-là qui a été proclamé par, de façon provisoire hein, par l'autorité indépendante de gestion des élections.
Oui, Mohamed, vous dites à la fin du reportage que les opposants à ce référendum ont saisi la Cour constitutionnelle pour invalider les résultats. Ces opposants que vous avez rencontrés, y croient-ils eux-mêmes à l'indépendance de la Cour constitutionnelle? Quelles sont les chances que ces résultats soient invalidés?
Justement, j'ai envie de reprendre mot pour mot les propos de Mahamadou Traoré, qui est dans le reportage, qui est un membre du Front uni contre le référendum, qui est le président du parti en Cambodge-Union et qui était le plus jeune candidat à la dernière élection présidentielle. Il dit que la Cour doit trancher et cette fois-ci, elle va bien trancher. Ça veut dire que ce front a confiance à la Cour constitutionnelle. Ce front croit réellement que la Cour constitutionnelle va invalider ses résultats parce que, comme il le dit dans l'élément, Kidal n'a pas voté. Il y a eu beaucoup de régions, notamment de cercles au centre du pays, qui n'ont pas voté. Et c'est cet argument-là qu'il met en avant, le cas Kidal, et comme on appelle le fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'élection pour dire que la Cour constitutionnelle va trancher en leur faveur. En tout cas, ceux-là que j'ai croisés, ils croient et pensent que ces résultats qui ont été en tout cas promulgués, en tout cas dits de façon provisoire par l'EJ, va être invalidé. C'est ce qu'ils croient.
Merci beaucoup, Mohamed Danyoko. Vous êtes le correspondant de VOA au Mali. Vous allez suivre pour nous les audiences de la Cour constitutionnelle à propos de ce référendum. Et pour analyser ce référendum, nous avons en ligne Sédi Kaba. Il est journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel. Sédi Kaba, que nous n'avons pas en ligne, me dit-on. Sédi Kaba, donc, qui doit analyser le référendum au Mali. Le référendum, comme vient de nous le dire notre correspondant au Mali, Mohamed Danioko. Les résultats ont été livrés par l'autorité électorale avec 97% des voix qui ont approuvé le projet. Et puis il y a eu 39,4% de personnes qui ont participé au référendum, donc dont le taux de participation s'élève à 39,4%. On va donc retrouver Sédik Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel, qui est avec nous pour analyser ce référendum, ses enjeux et ses perspectives. Sédik Abba, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs.
Merci bien. Alors, le référendum tant annoncé au Mali a finalement livré son verdict, du moins en attendant l'avis de la Cour constitutionnelle. Le oui l'emporte largement, mais on a noté une participation de 39,4%. Comment expliquer, Sédik Abba, cette faible participation?
Oui, parce que dans le processus qui a conduit à l'élaboration du texte, il n'y a pas eu de consensus dès le départ. Le premier faux pas, à mon avis, a été d'avoir mis en place un comité de rédaction, un comité national de rédaction de la nouvelle constitution, sans avoir pris le temps de trouver un large consensus au niveau des sensibilités politiques et de la société civile. Les 5 rédacteurs de la constitution, plus les 22 experts qui les ont assistés, ont été choisis presque de façon unilatérale par la junte, sans concertation de l'ensemble des différents courants politiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, lorsque le texte a été élaboré, il n'a pas fait l'objet d'une grande campagne de popularisation, de sorte que même si les gens étaient sortis pour voter le dimanche, ils auraient voté sur un texte dont ils ne connaissent pas à peu près le contenu. Et dessous, ça explique, lorsqu'on ajoute un peu le contexte sécuritaire dégradé, particulièrement au nord et au centre, on arrive à la conclusion qui est celle que une grande partie de la population malienne n'est pas sortie pour approuver ce texte. Votre correspondant à Bamako a donné le chiffre exact du taux de participation et il a dit avec beaucoup de clarté, et je suis d'accord avec lui, que le grand vainqueur de cette consultation référendaire, c'est le parti des abstentionnistes.
Effectivement, Sédik Abba, le référendum a rencontré l'opposition de certains groupes armés du nord du Mali et de certaines figures influentes, comme l'imam Mahmoud Diko. Le contenu de la nouvelle constitution fait-il problème ou alors il s'agit surtout pour ces gens de s'opposer aux autorités de transition?
Non, le contenu lui-même n'est pas consensuel. On peut ne pas être d'accord sur le contenu, mais il aurait fallu prendre en compte un certain nombre de facteurs importants. En ce qui concerne particulièrement la question du Nord, il a été dit dans l'accord d'Alger qui a été signé en février 2015 que certaines dispositions de l'accord d'Alger doivent être inscrites dans la constitution malienne pour leur donner force de loi. Et les partis signataires de l'accord d'Alger avaient sensibilisé les autorités de transition sur la nécessité de retranscrire ces textes-là, ces dispositions dans la Constitution. Je peux illustrer en disant que, par exemple, il est dit dans l'accord d'Alger que la question de l'élection des parlements régionaux, qui eux doivent à leur tour désigner les exécutifs régionaux, devrait être inscrite dans la Constitution. Et les autorités, malheureusement, dans la rédaction du texte, ont fait sourde oreille. Et il y a aussi ce qui fait débat, la question de l'hyper-présidentialisation. Le Mali a vécu depuis 1991 une expérience démocratique avec des hauts et des bas, mais on n'est jamais arrivé à un niveau de présidentialisation comme celui auquel on arrive avec ce nouveau texte. Oui. Un certain nombre d'avantages ont été évoqués par un des intervenants avant l'émission disant que les deux chambres réunies peuvent destituer le président, mais il reste que le président va être un hyper-président, un président omniscient, omnipotent, qui pourra démettre le Premier ministre, qui n'est responsable devant personne et qui pourra nommer à toutes les fonctions politiques et militaires.
Oui, alors, Sédik Abba, au vu de tout ce que vous décrivez, visiblement, on ne s'achemine pas vers une stabilité institutionnelle. Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour le Mali, selon vous, après ce référendum?
Non, on rentre dans une phase d'incertitude. Alors que le référendum aurait été l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre de stabilité, parce que la consultation référendaire devrait annoncer les autres consultations, les législatives, les présidentielles, etc., toutes les autres consultations. Mais avec ce faux départ de la consultation référendaire, je crains qu'on va s'installer dans des concertations, et puis éventuellement même, puisqu'il n'y a pas consensus, demain, parce qu'une constitution est appelée à durer le plus longtemps possible. Mais je crains que cette constitution n'aura pas cette longue vie, même si elle était adoptée par la Cour constitutionnelle. Je crains que dans peu de temps, qu'on soit ramené à la changer, puisque la constitution devrait faire l'objet d'un consensus politique. Il y a plutôt de la précipitation pour aller à la consultation référendaire, alors que le mieux aurait été de rechercher le consensus en amont pendant la campagne référendaire et puis au moment de la consultation elle-même. Et je pense que ce référendum ne consacre pas une ère de stabilité pour le Mali. Comme vous savez, au Mali plutôt, alors que le Mali fait face à un défi sécuritaire qui le dépasse,
voilà.
Qui concerne toute la sous-région.
Merci beaucoup, Sidi Kaba. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et vous êtes spécialiste du Sahel.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria.
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région. La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Merci d'écouter Focus Sahel en direct de Washington, DC, capitale fédérale des États-Unis. Je rappelle que nous sommes en direct aussi sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendons-nous maintenant au Bénin, un pays de plus en plus confronté à la menace djihadiste. Là-bas, les autorités ont lancé une campagne de recrutement au profit des forces armées. Après avoir scellé différents partenariats militaires, le gouvernement a procédé au lancement de la phase sportive et des visites médicales pour ce recrutement militaire de 5000 personnes. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Annoncé depuis quelques semaines, c'est finalement le vendredi 9 juin dernier qu'a démarré sur toute l'étendue du territoire national la phase sportive de recrutement destinée à renforcer les rangs de l'armée béninoise engagée depuis plus d'un an dans une lutte contre le terrorisme. Le commandant Rodrigue Tiamou est le président de la commission de recrutement dans le centre du Bénin, non loin de la frontière avec le Nigeria. Il a tenu à doper le moral de la troupe avant la course sur une distance de 6 km pour les femmes et 8 pour les hommes.
Je sais que beaucoup se sont entraînés et n'ont qu'à courir à leur rythme. Ce n'est pas la peine de vouloir forcer, parce qu'on a vu du monde vouloir forcer et craquer. Le recrutement militaire, ce n'est pas une fin en soi.
Qu'ils aient l'amour de la patrie, c'est défendre la patrie au prix même de sa peau, au prix même de sa vie. Et quand on est professionnel, sur tous les fronts, on s'en sort toujours.
Rien que pour la ville de Cotonou, 6000 jeunes étaient sur le point de départ, désireux de servir sous les drapeaux. Même si beaucoup ont déserté en chemin, les plus endurants sont arrivés à destination et espèrent passer l'étape suivante dans la bonne humeur.
Je me suis entraîné avant la phase sportive, donc ça ne m'a pas trop bousculé. Vu le climat aussi, bon, ça m'a un peu dérangé, mais c'était pas trop difficile pour moi. Ah, bon, un seul sentiment qui m'anime, un sentiment de joie, mais le travail n'est pas encore terminé, rien n'est encore fait.
Devant les entraînements, je les remercie énormément. Je traîne aussi pour la deuxième phase. Je sais que ça va marcher forcé.
À la suite de la phase sportive, 3500 candidats ont été déclarés admissibles. Le point définitif sera fait à l'issue de la visite médicale. Sur la télévision nationale, le général Abou Issa, chef d'état-major général de l'armée de terre, a déclaré que l'armée béninoise renforce ses potentialités pour repousser jusque dans le dernier retranchement les groupes terroristes qui s'attaquent au Bénin.
Malgré la présence de la menace terroriste, les militaires béninois font toujours preuve d'engagement et de détermination dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je puis dire d'emblée que le moral de mon personnel est très haut, notamment pour ceux qui sont engagés et bien sûr ceux qui sont en train de se préparer pour la relève. À ce jour, nos forces de défense et de sécurité contrôlent toute l'étendue du territoire national. Il se trouve malheureusement que la menace telle que nous la vivons, la menace terroriste, n'est pas une exclusivité béninoise.
Les candidats qui passeront le cap de la visite médicale seront formés pendant 6 mois par des experts béninois, américains et belges dans plusieurs garnisons situées dans le centre et le nord du Bénin. Ils devront être déployés après cette période pour des interventions dans les zones sous forte menace terroriste. Le général de brigade Fructueux Bagidi est le chef d'état-major général des forces armées béninoises.
Nous faisons vraiment face à l'ennemi. Il y a très peu d'attaques parce que le dispositif mis en place est assez dissuasif pour décourager les velléités ennemies. Et même quand l'ennemi s'est aventuré en début d'année, le traitement qu'il a reçu a fait de telle sorte que très peu ont envie de nous attaquer. Je ne dis pas que tout est réglé parce que en matière de sécurité, il y a toujours des incertitudes, mais notre posture, les équipements dont nous disposons aujourd'hui devraient permettre de faire face à l'ennemi. Non seulement nos frontières nord sont défendues, mais elles sont de plus en plus étanches.
Recruter 5000 hommes est-il suffisant pour combattre le terrorisme et en finir avec définitivement, pour l'analyste Habib Odilon Kokobo, c'est un combat de longue haleine.
Si le Nigeria, pendant 20 ans, n'est pas encore arrivé à bout, n'a pas eu les moyens d'arriver à bout de cette menace, il y a des raisons de penser que nos États n'ont pas la baguette magique pour pouvoir y arriver du jour au lendemain. En termes de moyens, il y a les moyens humains, les moyens financiers et les moyens techniques. Depuis un bon moment, on voit des appels à candidature pour le recrutement de militaires dans les forces armées, des appels qui en griffent et suscitent quand même une certaine réticence d'une partie des populations ou des jeunes censés y postuler.
En tout cas, le Bénin refuse de se faire encore surprendre par une attaque terroriste. Pour ce faire, les autorités se donnent tous les moyens, qu'ils soient matériels, financiers, humains, stratégiques, pour contrer cet ennemi invisible, mais qui frappe fort. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
À présent, le fait marquant de la semaine. Au Burkina Faso, le président de la transition a procédé dimanche à un remaniement partiel du gouvernement qui compte le départ de 4 ministres, dont ceux de la sécurité et de la justice. Comment la presse locale analyse-t-elle ce remaniement? Nous avons en ligne Salif Kabore. Il est le rédacteur en chef de notre station partenaire Ouaga FM. Salut Salif.
Bonsoir à toutes et à tous.
Voilà. Comment les médias locaux ont-ils traité ce remaniement? Est-ce que c'était un remaniement qui était attendu?
Non, je puis vous dire dans les détails que c'était un remaniement ministériel qui n'était vraiment pas attendu par la population, encore moins la presse burkinabè, qui s'est d'ailleurs étonnée de se retrouver, en tout cas du dimanche dans la soirée, avec justement ce décret lu à la télévision nationale du Burkina et qui opérait 4 changements donc au sein du gouvernement du Burkina Faso. Pour vous dire après aussi, c'est que depuis quelque temps, il y a certaines langues quand même qui disaient qu'il fallait quelques changements au niveau du gouvernement donc de la transition, mais il n'avait pas été vraiment question donc de ministre militaire, plutôt question de voir quelle était la possibilité de faire un remaniement donc au niveau du sommet, c'est-à-dire le premier ministre de Burkina Faso. En tout cas, certaines personnes pensent jusqu'à présent que ce remaniement ministériel devrait plutôt toucher le chef du gouvernement plutôt que 4 membres du gouvernement du Burkina Faso. Donc, pour vous dire que la presse burkinabè jusqu'à présent n'arrive toujours pas à analyser dans le fond ce qui a milité à la faveur donc de ce changement au sein du gouvernement par le capitaine Ibrahim Traoré.
Salif Kabore, on note tout de même le départ du ministre en charge de la sécurité. Est-ce que son départ a un lien avec la lutte contre le terrorisme? Est-ce que ce remaniement, son départ, peut apporter quelque chose dans ce combat contre le djihadisme, le terrorisme?
Alors, dans un premier temps, il est vraiment difficile pour moi de vous dire si ce départ effectivement donc est lié à la lutte contre le terrorisme. Mais tout ce qu'on fait au Burkina Faso ici, c'est que depuis quelque temps, il y a certaines délimités engagées par ce ministre dans le cadre de la lutte contre la sécurité. Il a été beaucoup question il y a de cela quelque temps de cette guerre au niveau donc des partis politiques qui se plaignaient beaucoup du ministre de la Sécurité sur sa manière donc même de gérer les partis politiques. On se souvient encore qu'il avait, alors qu'une mesure d'interdiction des activités des partis politiques était en cours, il avait à cette période délivré un certificat de reconnaissance et récipient de reconnaissance au Congrès pour la démocratie et le progrès, qui est l'ancien parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Cela avait suscité beaucoup de polémiques au sein de la classe politique et même au sein de la population. Sans oublier que tout dernièrement également, on a vu ce mandat d'arrêt où cette tête mise à prix par le chef, par le ministre de la Sécurité, qui recherchait donc des chefs terroristes ou des terroristes présumés.
Un contexte sécuritaire extrêmement fragile. Donc, merci beaucoup, Salif Kabouré. Vous êtes le rédacteur en chef de Ouaga FM. C'est une station partenaire de VOA Afrique. On reste au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. De décembre 2022 à février 2023, la commune de Dassa, située à 150 km de Ouagadougou, a subi plus d'une dizaine d'attaques terroristes. Début 2023, l'armée burkinabée a mené une série d'opérations dans la zone qui a permis de ramener la quiétude dans le centre de la commune. De nombreuses populations qui avaient fui la localité sont revenues. Notre correspondant Gildas Das s'est rendu sur place pour voir comment la vie reprend son cours.
Un peu plus de 150 km à l'ouest de Ouaga, voici Dassa. Il y a quelques mois de cela, la commune s'était vidée de ses habitants du fait d'attaques terroristes. Les stigmates sont encore visibles. Camions et autres engins incendiés par les groupes armés terroristes et aussi des maisons qui demeurent portes closes. Là, c'est un dispositif d'antenne de réseau de téléphonie mobile qui a été dynamité par ceux qu'on appelle ici les gens de la brousse. Il aura fallu de vigoureuses opérations de l'armée en janvier de cette année pour que Dassa reprenne vie. Une bonne partie de la population qui avait fui est de retour. C'est le cas d'Hubert Bassier.
Maintenant, je dis, ça va très bon même. Voilà, maintenant, on vit bien. Sinon, avant, on peut même pas récupérer. Tu peux même pas sortir au marché. Pour gagner à manger même, pour payer quelque chose, il n'y en a pas. Tous les gens là sont allés à Rio, Dougou, Ouagadougou. Mais maintenant, quand les militaires sont venus, on respire bien.
Ces jours de marché, et Dassa est en pleine effervescence. Une scène impensable il y a quelques mois à peine. Clairement, Dassa renaît. Les entrailles du marché fourmillent d'activité. Dans cette ambiance bon enfant, militaires et volontaires pour la défense de la patrie VDP sont encensés, avec en bonne place le capitaine Traoré.
On remercie le président pour ce qu'il a fait pour nous. Sinon, ça n'allait pas. Voilà, ça a été compliqué. Mais maintenant, quand on est revenu dans notre coin là, et puis on remercie les militaires, les VDP. Depuis que les militaires sont arrivés, maintenant ça va. Voilà, on n'a plus peur.
Derrière son étable, Patricia Bazongo, restauratrice, a retrouvé le sourire après avoir fui Dassa il y a quelques mois.
On était réfugiés à Rio, il y a d'autres qui sont à Kourou, actuellement comme ça. Mais maintenant, on est revenu, mais nous qui sommes au centre là, il y a deux mieux. Mais ce sont ceux qui sont dans les villages là. Pour aller chercher de la nourriture aussi, c'est un problème pour eux. Quand nous tous nous sommes ici, comme il y a la sécurité là, il y a un peu du mieux. Si les VDP n'étaient pas encore là, et les militaires, je ne serais pas là ici faire. Mais c'est grâce à eux que nous tous sommes ici.
Des villages dont parle Patricia, il y a Dor, village le plus attaqué de la commune. C'est de là qu'est venu Abieta Kandolo. De temps à autre, elle retournait y chercher de quoi manger.
Mais si tu vois, tu caches. Quand tu as entendu le bruit d'une moto, tu te caches. Si c'est passé, tu s'en vas enlever maïs ou bien sorgho.
Mais il y a longtemps qu'elle n'y retourne plus. Dassa, pour elle, est désormais son havre de paix. C'est en mars de cette année que l'armée a installé un détachement militaire à Dassa. Des hommes constamment en mouvement qui ont permis le retour des populations locales dans cette commune. Une présence qui permet à nouveau à la localité d'être en phase avec le message de bienvenue placardé à l'entrée de la ville, Dassa, terre d'amitié et de paix. Gildas Da de retour de Dassa pour VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté des nouvelles fraîches du Sahel. Mouamadou Oumfa à ce micro, Georges Léonard Sagnol, le maestro, était là pour la mise en onde avec Fatouma Kalala Alimassi. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.
Vos défis, vos récits et vos conditions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires.